France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Je me souviens, quand j'étais petite, de ma mère, quand je lui demandais ce que voulait dire un mot, elle me disait « bah regarde dans le dictionnaire, on en avait évidemment tous à la maison, on en gagnait à l'école, à la distribution des prix. » Il y a d'ailleurs encore chez mes parents un vieux dictionnaire de 1984 ou pas loin, dont la couverture est en lambeaux, elle a été réparée des milliers de fois avec des bouts de scotch et ce dico servait pour les mots croisés. J'avais beau dire à ma mère, tu sais que les lettres sont dans le même sens si je t'en achète un neuf, elle préférait son vieux truc qui aujourd'hui est un objet dans la maison. Du coup, en recevant le Larousse Illustré 2026 au bureau de cette semaine, on s'est demandé mais à quoi ça sert un dictionnaire aujourd'hui quand on peut regarder sur Internet, voire sur la page Larousse d'ailleurs aussi d'Internet. Le dico est-il toujours un indispensable ou devenu un rehausseur d'écran sur votre ordi, un objet vintage comme le bottin, est-ce que vous en avez encore un ? Alors pour savoir, j'ai fait le tour des bureaux à l'étage. Est-ce que vous avez encore un dictionnaire ? Oui, pour le Scrabble, m'a dit Anaïs, qui n'a pas 30 ans. Charline a encore un dictionnaire étymologique en 3 volumes et Ophélie pleure encore ce gaffio sur lequel elle n'arrive plus à remettre la main. Et vous, alors, le dico, est-ce que vous l'avez encore ? Est-ce que vous le regardez encore ? Est-ce que vous vous y plongez ? Est-ce que le dictionnaire qui fait rentrer des mots chaque année est encore aujourd'hui le marqueur d'une époque ? Eh ben, pas loin. Ça va vous intéresser, ça va vous faire rire ou peut-être vous consterner, mais le dico aura au moins lancé la conversation. Cette année, par exemple, il y a bordélisation, un mot né quasiment de la dissolution. Il y a l'expression gros comme « et gros, ça va ». J'ai aussi vu passer aplaventrisation, dont on comprend très bien le sens. Alors, je ne l'ai jamais utilisé de ma vie, mais je vais m'empresser de le faire. Il y a food truck qui va faire hurler les puristes de la langue française. Il y a logoté comme avec un logo, c'est moche, mais ça existe. J'ai vu bokia aussi comme le jeu pour personne en fauteuil. Et skir, ça m'a fait plaisir comme mon yaourt. Il y en a d'autres et on y viendra. À quoi sert encore le dico ? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Mathilde, c'est vous la première, vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci pour votre émission. Alors pour ma part, j'ai 27 ans et bien que mon dictionnaire me serve également à rehausser mon écran d'ordinateur, j'avoue que j'ai eu accès à des portables permettant une navigation facile sur Internet juste très tard. Et de ce fait, j'ai toujours grandi avec le dico. On en avait deux à la maison quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai le Larousse Illustré 2024. Et en fait, je trouve le dictionnaire, en plus d'un charme vintage, comme vous dites, une densité et surtout une variété d'informations à la page. Donc, j'aime beaucoup Wikipédia, mais pour vraiment la variété d'informations, je trouve que le dictionnaire, c'est encore mieux parce qu'il n'y a littéralement que à lever les yeux. Et je trouve ça très pratique. Ça titille un peu la curiosité. Mieux qu'Internet, en fait, je trouve, du fait de la variété.
Est-ce que vous êtes encore du genre, Mathilde, puisque vous êtes à une page, vous avez trouvé la définition, puis vous y restez, et puis quand vous relevez la tête, vous vous rendez compte que une heure a passé, en fait ?
Peut-être pas une heure, mais effectivement, ça, je peux vraiment me perdre, et puis, découvrir de nouvelles choses, enfin, ça, je trouve que c'est vraiment très appréciable, et on peut quand même se perdre un petit peu, effectivement.
Merci beaucoup, Mathilde, pour cette jolie entrée en matière. Merci pour votre témoignage, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Autour de cette table, il y a Karine Girac-Marinier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du département dictionnaire, encyclopédie et périscolaire chez Larousse. Il y a Julie Neveu. Bonsoir.
Bonsoir.
Maîtresse de conférence en linguistique à la Sorbonne Université. Vous êtes membre des linguistes atterrés, et vous êtes chroniqueuse à France Inter avec la langue chez l'ami Ali Rébéi. Ce que je trouve intéressant dans ce que nous dit Mathilde, Karine Girac-Marinier, c'est qu'on peut se perdre. Il n'y a rien de plus génial que de se perdre, en fait, dans un dictionnaire. Et finalement, on se perd moins sur Internet, peut-être, parce qu'on sait ce qu'on va chercher directement.
Oui, on retient moins aussi sur Internet, parce qu'on est moins actif. Internet nous propose tout de suite ce qu'on cherche. Alors que c'est vrai que le dictionnaire, on va chercher, on va des fois avoir du mal à trouver. Surtout pour les enfants, parfois, qui ont du mal avec l'ordre alphabétique. Et puis, surtout, ce qui est superbe dans le dictionnaire, c'est que c'est une promenade, en fait. On va chercher un mot, et puis, de fil en aiguille, on va lire un paragraphe encyclopédique, un encadré, on va regarder une planche, on va aller voir les noms propres, un philosophe, de l'art.
Après, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, objectivement, on achète de moins en moins de dictionnaires. Est-ce que ça finira par devenir un objet rare, en fait ?
Je ne sais pas, je crois que, pardonnez-moi cet anglicisme, mais le dictionnaire, c'est quand même un long-seller. Hein. Il faut savoir que, par exemple, le petit Larousse...
Aïe, 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 alerte anglicisme.
Mais on peut le dire, quand même. C'est un ouvrage qui existe depuis 1856, donc vous voyez, il s'en vend toujours, et surtout, on a des dictionnaires aussi pour les enfants, donc c'est un besoin, quand même, d'utiliser le dictionnaire, et puis... les enseignants prescrivent en fait les dictionnaires parce que ça fait partie des programmes scolaires. Il faut savoir utiliser le dictionnaire.
Et c'est comme ça qu'on apprend l'alphabet, j'imagine, non
En s'entraînant,
en allant chercher dans le dictionnaire, Julie Neveu, ça
tout
marche
à
toujours.
Tout à fait. Il y a des professeurs d'école qui apparemment ont encore cette technique. Moi, mes enfants m'ont appris ça tout à l'heure qu'en effet, ils s'entraînent non pas comme une compétition de vitesse, mais en tout cas, ils s'entraînent à chercher les mots dans le bon ordre. Et c'est vrai que ce que dit Mathilde est intéressant parce qu'il y a le côté objet-livre qui reste en fait une expérience physique. C'est-à-dire que vous tournez la page et vos yeux peuvent être attirés en effet par d'autres entrées. Donc on peut avoir ce parcours des yeux qu'on n'a pas sur Internet par une seule entrée, avec une seule entrée par...
Employé un anglicisme. C'était quoi tout à l'heure, Karine Girac-Marinier?
Long-seller.
Eh bien, voyez, on a Aurélia qui dit « Pour moi, le dictionnaire, c'est le meilleur page-turner ». Et elle ajoute quand même « J'ai honte de ne pas trouver l'équivalent de cette expression en français. J'aimerais d'ailleurs avoir un dictionnaire québécois. Peut-être que les Québécois peuvent nous aider. Vous allez nous le dire. Elle dit que son petit Robert, mais j'imagine qu'elle joue pareil avec son Larousse, est vieux et fidèle. Je le consulte très régulièrement pour vérifier l'orthographe ou la signification d'un terme. Et à chaque fois, en cherchant mon mot, je tombe sur un autre, et puis un autre, et puis un autre. » Si bien que ça reste collé à mes doigts. Et puis en plus, quand on cherche sur Internet, ça crée de la pollution numérique, qui plus est. Voilà, c'est ce que nous dit... c'est signé Aurélia, mais c'est signé aussi Pierre de Nantes. Enfin, en tout cas, visiblement, ils sont d'accord tous les deux. Page Turner en français ?
Je pense qu'il y a des mots, et là ça ne me vient pas, mais je crois qu'on a des équivalents, c'est des recommandations officielles, il faudra que je regarderai. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas rentré dans le dictionnaire, on a évidemment d'autres mots qui sont rentrés. Mmh. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Julie, on essaye au plus possible de mettre les recommandations officielles dès qu'il y en a, mais vous savez qu'on est obligé parfois dans le dictionnaire de mettre des anglicismes quand on n'a pas d'équivalent français.
Mais alors moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, vous avez fait rentrer food truck par exemple, et oui. Effectivement vous dites aux boîtes food truck qu'on peut dire
Camion-restaurant.
Mais objectivement, Julie Neveu, personne ne dit camion-restaurant. Donc, allons-y pour foutre truc.
Il y a un moment où c'est l'usage. Si le dictionnaire sert à refléter l'usage, en effet, c'est l'usage qui va primer. Et surtout, dès qu'un mot s'installe, dès que l'usage s'est répandu, c'est très, très difficile de faire marche arrière. Et surtout, ce qu'on voit bien avec les anglicismes, et déjà ce mot, et bon, j'ai passé du temps à dire ici et là à quel point il n'a pas vraiment de réalité scientifique. Mmh. En fait, un mot, à partir du moment où vous l'adoptez dans une culture donnée qui a une langue donnée, il est francisé. Food truck, la façon dont je le prononce, je pense qu'aucun anglophone va le reconnaître de toute façon. Donc voilà, et il y a un contexte très spécifique, il y a une nuance sémantique qui s'acquiert grâce à un mot en particulier. Le food truck, c'est ce que vous trouvez dans la rue et qui va vous donner des plats comme ça faciles à emporter. Enfin, c'est tout à fait un mode, c'est une culture, quoi.
Est-ce que vous avez le sentiment que on va parler tout à l'heure des mots qui sont rentrés, peut-être des mots qui sortent d'ailleurs aussi. Est-ce que malgré tout, d'abord du côté de chez vous, Julie Neveu, vous qui êtes spécialiste en linguistique, on n'achète pas un dictionnaire tous les ans, évidemment. Il y en a un qui sort tous les ans, mais on ne l'achète pas tous les ans. Donc, il y a quelque chose aussi qui se fiche dans le marbre, un petit peu, dans un dico.
C'est sûr que moi, de toute façon, j'ai un rapport au dictionnaire, en effet, un petit peu. Enfin, j'ai l'impression que oui, ça confirme, ça encourage une sorte de momification de la langue. Mais j'adore quand même l'objet, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de. Oui, l'écrit, de toute façon, fige. Et donc, en plus, comme en France, on a tendance à avoir une culture un peu de sacralisation de l'orthographe, j'ai l'impression que. Ça m'a intéressé ce que vous avez dit tout à l'heure de vos collègues qui l'utilisaient pour le Scrabble, c'est-à-dire qu'il y a un effet Scrabble du dictionnaire où je me demande dans quelle mesure la plupart des gens, néanmoins adultes, ne le regardent pas juste pour vérifier l'orthographe. Or, l'orthographe, pendant des siècles, tous les dictionnaires qui sortaient très souvent, même de l'Académie française, servaient à accompagner un changement de l'orthographe. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, nos dictionnaires, ils sont prudents, comme la société qui est devenue très prudente en matière de changement orthographique. Et donc oui, j'ai l'impression qu'il y a un côté momification. C'est Raymond Queneau qui rigolait et qui disait alpha décédé à propos des dictionnaires.
Mais c'est vrai aussi que il suffit de le savoir et de s'en rendre compte quand on l'a entre les mains, Karine Girac-Marinier, c'est marqué dans le temps un dictionnaire, puisque les mots qu'on va trouver aujourd'hui en 2026, évidemment, ils n'existaient pas l'année dernière et encore moins il y a 10 ans. Donc il faut y penser au fond quand on le lit, se dire qu'on est en train de lire une édition 2014, 2012, 2003, j'en sais rien. Un dictionnaire est marqué dans le temps.
Bien sûr, mais c'est ça qui est passionnant, en fait. Le dictionnaire, c'est le miroir de la société. Toutes les évolutions de cette société se traduisent par des évolutions de la langue que l'on fait rentrer dans le dictionnaire. Donc c'est absolument passionnant quand on fait une étude sur les 10 dernières, par exemple, années, de voir quels mots sont rentrés. Mm-hmm. C'est une lecture, en fait, de ce que nous avons connu et subi. Et donc, moi, je trouve que c'est absolument formidable. Et je voudrais répondre quand même à Julie.
Allez-y.
C'est vrai que Le dictionnaire, nous essayons en tout cas quand nous faisons les dictionnaires de ne pas être normatifs, de ne pas figer la langue. En revanche, c'est vrai que les usagers du dictionnaire pensent que nous sommes la norme. Mmh. Donc une fois qu'on a fait entrer un mot, on peut l'utiliser au Scrabble par exemple. Pour les joueurs, c'est vrai que c'est toujours ce qui nous rend tête. Alors que nous, dans notre travail en fait, c'est l'usage, c'est le fait que tous les francophones utilisent abondamment un mot qui fait qu'on va le rentrer dans le dictionnaire et le définir.
Vous dites d'ailleurs que c'est à la fois quantitatif et qualitatif. C'est-à-dire
tout à fait.
Quantitatif, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent, il faut qu'on le voit, il faut que ça existe souvent, j'imagine, dans le langage parlé, vous l'entendez à la radio, vous le voyez
à l'écrit, dans les médias,
etc. Et aussi qualitatif, ça veut dire quoi qualitatif en fait par rapport à
quantitatif ? Ça veut dire qu'il faut que l'usage soit partagé. Ça veut dire qu'il faut que ce soit plusieurs générations qui lui utilisent le mot ou en tout cas qui aient entendu parler du mot. Ça veut dire aussi que ça soit toutes les catégories socio-professionnelles. Ça veut dire, vous voyez par exemple, il y a beaucoup de mots de science qui apparaissent chaque année, notamment en médecine. Ah oui. La médecine est très très créatrice de nouveaux mots, évidemment de nouveaux traitements, etc. Mais on ne va pas les faire rentrer chaque année parce que très peu sont connus du grand public. Donc on attend que ces mots de la médecine soient très connus, très utilisés par exemple par les médias généralistes et pas par la recherche, pour les faire rentrer, les définir dans le dictionnaire.
Par exemple, vous avez fait rentrer démence pugilistique.
Tout à fait, pour les joueurs de rugby, tout à fait notamment.
Pardon, je ricane, mais est-ce que c'est vrai que
c'est une expression très imagée.
Mais il y en a, j'en ai quelques-unes que vous n'avez jamais utilisées, et d'ailleurs moi non plus. Après, je trouve ça intéressant, vous avez fait rentrer périménopause, vous avez fait rentrer précarité menstruelle.
Oui.
On est totalement dans le monde médical et scientifique, mais on est bien plus loin que le monde médical et scientifique.
Et oui, on est dans l'évolution
de la société. Exactement, dans le mot périménopause, par exemple, le simple fait de le rentrer, ça veut dire que donc on en parle, ce qui n'était pas le cas avant.
Et exactement.
Ça dit quand même beaucoup plus que le simple mot, finalement.
Exactement, sur la périménopause, c'est très intéressant, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est périménopause ou préménopause qui est utilisé ? En fait, on a vu que le plus généralisé, le plus utilisé, c'était périménopause, et on l'a fait rentrer parce qu'effectivement, une grande partie de notre société, de notre population s'intéresse à ce point et il n'était pas dans le dictionnaire. C'était un mot qui n'était pas présent.
Pour la linguiste que vous êtes, Julie Neveu, rien que pour ça, c'est ça au fond l'outil du dictionnaire tous les ans pour vous, c'est de voir ce que dit la société à travers de ce qu'il met à l'intérieur.
C'est tout à fait. Mon collègue Médéric Gasquet-Cyrus et ainsi que Christophe Rey ont écrit « Va voir dans le dico si j'y suis ce que le dictionnaire raconte de nos sociétés ». Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours de l'idéologie. Et ce travail, c'est un travail en fait, c'est un équilibre.
De l'idéologie, vous dites même, carrément.
Oui, de l'idéologie, parce qu'en fait, c'est impossible. Je veux dire, le langage, c'est politique, on partage, c'est quelque chose qu'on partage, c'est des débats qui informent, c'est des journalistes qui relaient des débats. Ici, vous en relayez grand nombre. Et donc, c'est des progrès sociaux, des débats sociaux. Et pour comprendre les termes du débat, les dictionnaires sont très utiles. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a besoin d'actualiser en permanence. Et je salue l'entrée, en fait, j'ai l'impression que le petit Larousse illustré cette année a pris un virage un petit peu wokiste, comme diraient d'autres. Et je m'en félicite.
Avec quoi, par exemple ?
Avec des mots de jeunes et des mots en anglais, et avec notamment beaucoup de mots sur l'inclusion. Tout le dossier de presse dit l'effort pour représenter ce que la société se donne comme moyens lexicaux pour nommer les minorités, en fait.
Nommer
donc
les minorités,
handisport, le
exactement,
sexifoot,
et nommer ce qui n'était pas visible.
Voilà.
On va y revenir, je voudrais d'abord qu'on écoute Marc, qui est avec nous. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
On vous écoute Marc.
Oh ben c'est juste une illustration de ce qui a déjà été amplement
Je vous en prie.
Dit. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur Internet chercher un mot, vous trouverez son orthographe, son étymologie, sa signification. Alors que si vous allez le chercher sur le dictionnaire papier, ben vous en trouverez d'autres. Là, toujours dans un livre, oui, je lis des livres, il y avait le mot « éprendre ». Le mot « éprendre », j'ai dit « qu'est-ce que c'est que « éprendre » ? » Alors je suis allé chercher, c'est « presser quelque chose pour exprimer le jus ». Très bien. Et à côté, il y avait « épod ». Je dis qu'est-ce que c'est, Pod. Troisième couplet d'un cœur lyrique. J'ai trouvé épite, petit morceau de bois pour boucher un trou. Bon, tout ça.
Est-ce que vous êtes
si
à F quand même,
Internet,
ou pas, Marc?
Vous ne le trouverez pas. Et ça me fait penser, si vous voulez, à vos disques. Quand vous trouvez un magasin de disques, vous trouvez des CD auxquels vous ne pensiez pas, alors que si vous commandez un CD sur Internet,
exactement,
vous commandez celui que vous avez.
Exactement, directement celui que vous allez chercher.
Juste un petit mot
Allez-y.
De plus. Page Turner, vous pourriez mettre farfouilleur.
Page Turner, c'est pas exactement ça. Non, c'est quand un livre se lit d'une traite tellement il est intéressant, tellement il est bon.
Excusez-moi.
Non, mais je vous en prie.
Méprise.
Eh bien écoutez, il est 19h36, il nous reste presque une demi-heure pour trouver l'équivalent français de Page Turner. Je vous attends au standard, les standardistes vont devenir fous, vous allez être extrêmement nombreux. Je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idéologie presque. Évidemment, quand on fait rentrer, là vous avez fait rentrer tous les mots du handisport, par exemple, beaucoup de mots du handisport. Et en effet, c'est donner de la visibilité, aux AESH que vous faites rentrer. Donc c'est l'accompagnement des élèves en situation de handicap.
Oui, oui.
Vous faites rentrer la boccia, s'il n'y avait pas eu de Jeux paralympiques, on n'aurait jamais su ce que c'était. Faites rentrer le cécifoot, s'il n'y avait pas eu de Jeux paralympiques en France et que ça avait si bien marché, on n'aurait pas su non plus. Vous avez fait rentrer parasport. C'est de la politique de faire rentrer tout ça.
Alors. Moi, j'analyse pas comme ça. Je pense que c'est surtout qu'en fait, c'est vraiment une évolution profonde de la société. Effectivement, par ces Jeux paralympiques, on a vu une volonté de rendre visible ce qui avant était un petit peu caché, c'est vrai. Et du coup, en fait, c'est une évolution dont nous tenons compte, puisqu'on a énormément, il y a eu une très belle visibilité de ces Jeux paralympiques, et donc il y a eu beaucoup, effectivement, de mots, d'articles. On a rentré aussi dans les noms propres de grands champions paralympiques.
Vous avez fait rentrer Léon Marchand, bien sûr.
Qui n'est pas un champion paralympique, mais,
Monsieur
Léauté, qui l'est en l'occurrence. Donc, voilà. Je dirais moins que c'est idéologique, puisque c'est pas l'idée du petit Larousse à la base.
Oui, pardon, excusez-moi.
Pardon. Non, je vous en prie.
L'idée du petit Larousse, c'est vraiment une description de la langue française telle qu'elle est parlée. Ça a toujours été notre idée. Et donc, c'est vraiment l'usage qui prime. Et c'est une évolution de la société qui donne lieu à une évolution de la langue.
Julie Neveu.
Non, je ne conteste pas du tout la scientificité de la méthode et de l'approche et d'un grand collectif de lexicographes dont c'est le métier, qui regardent ensemble les données qui remontent, qui sont partagées, tout ce que vous avez dit. En fait, ce n'est pas du tout pour contester ça, mais je trouve que néanmoins, pour avoir participé à quelques réunions de décision sur quel mot allait rentrer ou non au Robert, on s'aperçoit que c'est des humains. C'est tout simplement des humains, en fait. Ouais. C'est des humains qui, à un moment donné, doivent néanmoins décider. Parce que le papier, là, il fait déjà 2 kilos, dictionnaire. Oui. Il y a un moment, il ne peut pas tout intégrer. Ouais. Il y a des milliers de nouveaux mots par an, en fait.
Et vous en faites rentrer 150.
C'est 150. Ça, on s'oblige à ce quota à peu près par an pour être sûr d'éviter les effets de mode et puis aussi de se limiter, d'être sûr de pas trop en rentrer de mots et d'essayer d'être le plus objectif possible sur ce qu'on rentre.
Et effectivement, il y a des choix qui sont faits. Il y a eu un moment, on se souvient, il y a quelques années, la polémique avec le Robert qui avait fait rentrer Yale, alors que vous n'avez pas fait rentrer Yale. Là, je me suis amusée à comparer, par exemple, ils font rentrer les TikTokers, vous ne faites pas rentrer les TikTokers. À quel moment, pourquoi TikTokers, ça ne rentre pas, en fait, typiquement dans un dico comme le Larousse?
En fait, c'est une question, je dirais, d'application de nos critères, le quantitatif et qualitatif, et également de choix. Dans les 150 nouveaux mots qu'on avait cette année, nouveaux sens, on trouvait qu'il y avait des choses sans doute plus importantes. Et plus emblématique ou qui ne se comprenait pas toute seule, donc qu'il fallait absolument définir.
Après, alors moi ça m'a fait rire, il y a des dans le dossier de presse avec les 150 mots que vous mettez, j'ai mis des catégories visibilité, écologie, air du temps, et puis j'ai mis aussi inconnu au bataillon. Et dans Inconnu au bataillon, c'est pour ça que j'allais chercher sur TikToker, parce que je vois haptique.
Ah, c'est très important.
Oui, absolument. Se dit d'une technologie qui reproduit en temps réel la sensation de toucher dans un environnement virtuel à l'aide d'accessoires tels que des gants, une combinaison, une manette de commande, un pédalier, etc. Je me disais juste qu'à l'usage, on dit quand même beaucoup plus souvent TikToker que haptique, non ?
Et oui, mais haptique est une avancée de la science, justement pour les gens qui n'ont pas de main. Donc c'est une très très grande avancée et c'est important. Il y a dans le dictionnaire effectivement parfois des mots. Si vous voulez, l'idée du dictionnaire, c'est que ça reflète toutes les disciplines. Donc bien sûr, il y a des mots de langue, mais il faut aussi qu'il y ait des mots de science, des mots du droit. Vous avez les violences vicariantes qui font leur entrée en nouvelle locution dans le dictionnaire également. Donc vous avez les majeurs protégés. Donc vous voyez, ça couvre tout le champ de la langue. Ça ne doit pas être que sur les nouvelles technologies.
De la langue et de la société. Julie Neveu, je vous ai vu réagir.
Est-ce que la direction éditoriale du Larousse a toujours, je crois, été intéressée par les innovations technologiques en particulier, non ?
Je crois que c'est proche.
Donc vous avez un prisme, en fait. Donc il y a un prisme, qui n'est pas un mauvais prisme, d'ailleurs, mais il y a un prisme.
Il y a des choix. Ouais. Je pense qu'il y a toujours des choix.
En fait, l'idée, c'est de refléter toutes les disciplines et donc d'être aussi bien scientifique que artistique sur des mots des arts, sur des mots de la société.
Après, ce qui est fascinant, c'est en combien de temps on décide que ça rentre. Je citais bordélisation tout à l'heure, c'est tout neuf. Alors, ça existait avant ce mot, mais il s'est mis à rentrer dans notre vocabulaire avec la dissolution, donc ça a moins d'un an, en fait. À l'inverse, par exemple, je vois... c'est bête parce que je l'ai raté, mais alors vous avez fait rentrer téléprésentiel, je trouve ça intéressant, oui. Que vous ayez fait rentrer dans ce sens-là. En fait, je me demandais à partir de quel moment on considère que, ok, l'usage est suffisant. Est-ce que c'est une question de quantité ou est-ce que c'est une question de temps pour être sûr que le mot va rester, en fait, que c'est pas juste une mode et qui va disparaître au bout d'un an?
Ben, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner, si ce n'est que, en fait, c'est vraiment une osmose entre les deux critères, le quantitatif et le qualitatif. Et effectivement, il y a une part... nous, ce qu'on veut éviter absolument, c'est les effets de mode. Donc, on ouais. veut éviter les mots qui ne resteront pas. Donc, parfois, des mots peuvent rester très longtemps dans nos listes de néologismes. Et chaque année, on repasse en revue et on décide que, bon, bien qu'ils aient beaucoup d'occurrences, on peut encore attendre pour les faire rentrer parce qu'on n'est pas sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, ils soient utilisés. Donc, voilà, on n'a pas de... C'est pas une règle, vous voyez, absolue. Ouais. Mais par contre, c'est un faisceau de critères qui permettent quand même d'essayer d'éviter les effets de mode. Et surtout, je trouve que quand on analyse justement les 10 ou 20 dernières années, ben je peux vous dire qu'en fait, on s'est assez peu trompé. Et ça, c'est le Petit Larousse, les autres dictionnaires aussi, bien sûr. C'est qu'on est tellement proche, on est tellement le miroir des évolutions de la société, qu'en fait, les mots qu'on a rentrés sont restés.
Julie Neveu, puis on retourne au standard. Vous lui ajoutez
non, c'était par rapport aux effets de mode où je vois très bien ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a une connotation un peu péjorative sur les effets de mode. Mais finalement, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un esprit du temps aussi? La mode, c'est la façon dont on modèle notre vivre ensemble pour utiliser des expériences. Voilà. Donc, voilà. Mais je comprends que pour jauger si la mode, la modalité s'installe, il faut un petit peu de temps, c'est sûr.
Juste un mot, c'est le message de Sébastien sur WhatsApp qui dit: moi, je suis un fou du dico, je suis linguiste. C'est l'un de vos collègues et j'en possède plus de 300 dans une quarantaine de langues. J'adore les vieux dicos vintage, dit-il, qui montrent l'évolution de la société, effectivement, en fonction des mots qu'on a mis, qu'on enlève, et surtout la définition qu'on en fait aussi de chacun de ces mots-là. Voici Jean-Pierre qui est à Bègles. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Jean-Pierre.
Alors moi j'appelais pour vous signaler que le dictionnaire, j'en ai toujours un à la maison, mais en fait... il nous sert à jouer. Et on joue au jeu du dictionnaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu.
Bien sûr. Il faut trouver des mots qui commencent par la même lettre. C'est pas celui-là?
Alors, c'est pas tout à fait. Non, c'est pas celui-là. C'est, on choisit au hasard dans le dictionnaire un mot, alors si possible. Enfin,
ah oui, c'est ça.
Que personne ne connaît. Ouais.
Et il faut jouer à trouver la définition.
Alors, il ne faut pas trouver la définition, mais il faut inventer une définition, parce que comme on ne la connaît pas, le mot, c'est difficile de trouver la définition. Mais on invente des définitions. Celui qui a ouvert le dictionnaire, lui, écrit sur son papier la vraie définition. Et à la fin, on lit toutes les définitions. Il faut trouver quelle est la bonne.
Exactement.
Et je vous jure que très rapidement, tout le monde prend le coup et on écrive des définitions encore plus vraies que celles du Petit Larousse. et que souvent, c'est très compliqué de trouver la vraie. Ouais. Quelquefois, il y en a qui sont complètement loufoques et ça fait rire tout le monde. Mm-hmm. Mais en tout cas, je vous garantis que c'est des soirées hilarantes à chaque fois. Et que je joue avec mes petits-enfants ou que je joue avec des amis, le résultat est toujours le même et c'est toujours des super soirées.
Vous avez raison.
Donc, voilà, donc le dictionnaire sert encore... encore à ça.
C'est vrai que je confondais avec le jeu du bac, c'est nul, vraiment.
Merci beaucoup,
Jean-Pierre, n'importe quoi. Julie Neveu.
Non, mais je trouve ça génial, Jean-Pierre, et moi aussi, je joue un peu au jeu du dictionnaire. Et en fait, ce qui est très ludique, là, ce que vous venez de si bien décrire, c'est la façon dont on peut parodier le style d'une entrée de dictionnaire. Et qu'en fait, donc, vous êtes devenu expert dans votre famille, apparemment. Et ça décrédibilise un petit peu encore la scientificité. Donc, en fait, tout le monde pourrait se mettre à faire le lexicographe.
Très vite, quoi. Les deux premières fois, oh là là, ça c'est pas une vraie définition, mais la troisième fois, ça y est, on a pris le style et on connaît.
Merci beaucoup Jean-Pierre, merci vraiment. Tiens, il y a Christine sur WhatsApp qui dit Acrolivre pour Page Turner.
Ah oui, c'est pas mal.
Acrolivre, je note celui-là. Pas mieux faire, je suis sûre qu'on peut trouver autre chose. Votre collègue linguiste, il a 300 dictionnaires, vous avez 300 dictionnaires vous aussi?
Non, j'ai aussi mon vieux Gaffio, mais je pleure dessus, mais il est en lambeaux, mais il est toujours là, que je consulte encore, et j'ai le dictionnaire historique de la langue française chez Robert. Et depuis que j'ai des enfants qui grandissent et qui apprennent, il y a des nouveaux petits dictionnaires comme ça, plus faciles à consulter. Mais c'est vrai que c'est avec eux que j'ai re-regardé. Et même cet après-midi, j'ai dû regarder Balade, où j'ai eu un doute subi, comme on a parfois, vous savez, c'est-à-dire je ne savais plus si Balade, il fallait la balade pour se balader dans la forêt.
Ah ben, un aile ou deux ailes,
voilà,
c'est ça, merci, merci. Moi, j'ai le même problème avec colonne, donc je vous en prie, allez-y.
On a un problème de double consonne, problème de double consonne, dû à la complexité de l'orthographe française. Et donc, j'ai vérifié. C'était juste pour dire que j'avais vérifié. Vous voulez que je vous dise, pour se balader dans la forêt, il y en a un seul. Mais sachez que ce balade-là, avec un seul L, on l'écrit comme ça parce qu'il dérive de balader, le verbe qui a un seul L, lui-même dérivant de l'ancien nom balade, qui veut dire balade aussi, et qui avait en fait un seul L avant d'avoir deux L. Donc en fait, c'est très très compliqué. Vivement une rationalisation de l'orthographe.
Ben, comme un terme mnémotechnique quand on se balade à cloche-pied. Voilà. Un seul L.
Un seul L.
Karine Girac-Marigny, moi je me demandais, parce qu'il y a plein de gens là qui nous racontent qu'ils sont amoureux de leur dico, on est en train de parler de ce qu'on trouve dans le dico. Est-ce que c'est un truc français parce qu'on est vraiment hyper attaché à la langue?
Oui. Ah, je crois que c'est une passion française, la langue. Vraiment, on voit d'ailleurs quand il y a des débats sur la langue, ils peuvent être parfois même houleux, passionnés, polémiques. Non, il y a une vraie passion française. Regardez quand, en Belgique, certains avaient souhaité enlever l'accord du participe passé. En France, ça avait fait un tollé. Les rectifications orthographiques, ça a souvent quand même été assez mouvementé. Donc il y a une passion. Et c'est magnifique. Et je dois dire aussi que je crois que on est très créatif. Alors je dirais pas que les Français, les francophones en général, on est très créatif. On parlait tout à l'heure des anglicismes, mais on n'arrête pas de créer des mots qui vont remplacer les anglicismes. Et je trouve que on le fait bien et que certains de ces mots prennent bien dans la langue. On citait tout à l'heure, bon, le camion restaurant sans doute ne prendra pas.
Mais divulgacher a très bien pris. Merci.
Mais divulgacher qui venait du Québec.
Non.
Je pense qu'on est moitié.
Ah ouais. J'ai l'impression qu'on entend
le dire divulgaché. Vous dites qu'on invente des mots, vous avez fait rentrer logoté, par exemple.
Oui.
C'est un mot qu'on... J'ai presque l'impression qu'il a été inventé, mais c'est une bonne idée.
Il paraît tout simple, cet adjectif. Hein. C'est pour un t-shirt qui porte des logos de marque. Il est logoté.
Ouais, absolument.
Ouais. Oui. Mm. C'est vrai qu'il a l'air... on a l'impression qu'il existait déjà.
Exactement. Oui. Gilbert est avec nous. Bonsoir, Gilbert.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh ben, écoutez, je suis content de passer. Donc, je voulais juste qu'on nous parle un petit peu des mots qui sortent. On nous parle beaucoup des mots qui rentrent, ce que vous venez de dire encore, mais quels sont les malheureux mots qui disparaissent et pourquoi ils disparaissent?
Et c'est vrai, les pauvres. Et surtout, j'ai une autre question. Où vont-ils quand ils disparaissent?
Alors, je vais tous vous décevoir.
Mais le dictionnaire des mots disparus, mais la voilà l'idée, Julie Neveu.
Ah ouais, ça existe.
Mais quelle bonne idée.
Mais ça existe.
Ah, ça existe.
Ça existe. Oh, mais
trop bête.
Ils sont très jolis. Mais en fait, je vais vous décevoir tous, en fait, dans le Petit Larousse. D'un millésime sur l'autre, vous n'avez pas de mots qui disparaissent. Mmh. Aucun mot ne sort du dictionnaire.
Vous écrivez de plus en plus petit.
Alors, on trouve des subterfuges. On peut augmenter la pagination, couper un peu les images, effectivement. Mais non, il n'y a pas de mots qui sortent. Parce qu'en
mais il n'y a pas de mots qui. Alors, mais vraiment, c'est une vraie question, celle de Gilbert. C'est pas tant que le mot n'existe plus, les mots existent toujours,
bien
évidemment,
sûr, c'est pour ça qu'il faut toujours
mais vous nous avez expliqué très bien à quel point l'usage faisait entrer un mot. Quand un mot est devenu hors d'usage, si je puis dire, ça n'existe pas un mot hors d'usage en fait.
En fait, non, parce que dans nos lectures, on peut aller lire des livres du 16e ou du 18e, on peut avoir besoin, ou même du 19e, de Zola, etc. On peut avoir besoin de retrouver des mots qu'on côtoie moins aujourd'hui et dont on a besoin de la définition, d'une part. Et puis, ce qui peut arriver, c'est que dans les grandes refontes qui ont lieu tous les 15-20 ans, on peut enlever quelques mots, mais vous voyez, c'est un pourcentage tout petit, c'est moins de 0,2% dans ces cas-là de mots, c'est-à-dire que c'est à peu près 100 mots qui disparaissent, qui vont sortir du dictionnaire. Et en fait, ces deux types de mots, dans ces cas-là, ce sont les anglicismes qui sont passés de mode. Mm-hmm. Par exemple, à l'ancienne, une des dernières refontes, on avait enlevé le céréal, qui a été remplacé par la série. Ou le keepsake.
Le keepsake ?
Keepsake, ça c'était un vieux mot qui est par exemple qu'on trouve chez Proust, c'était des sortes de calèches.
Ah bon ?
Voilà, donc ça a disparu du dictionnaire par exemple. Et les deuxièmes types de mots qui disparaissent, ce sont par exemple dans une famille de mots, par exemple vous voyez autour du magnétoscope. Ouais. Si on le trouve dans une lecture des années 80, on va garder le mot, la racine du mot magnétoscope. En revanche, on enlèvera le verbe magnétoscoper, l'adjectif éventuellement, etc. Mais il y a vraiment très peu de mots qui disparaissent parce qu'en fait aussi des mots des fois connaissent une deuxième vie. Par exemple, Eldorado, n'était plus du tout utilisé, a été réutilisé à un moment donné, le va-t-en-guerre aussi, enfin cette locution. Donc, en fait,
ça veut dire vraiment qu'il faut revoir les définitions dans ces cas-là, il faut même revoir probablement...
Bien sûr, ou
les...
ajouter des sens.
Exactement, ajouter des sens, ajouter même des expressions, actualiser les expressions, il y a toujours une expression avec un mot pour montrer son usage.
Voilà, toujours un exemple.
Ouais,
l'idée, c'est
qu'un
dictionnaire doit avoir des exemples, sinon c'est un squelette, puisque c'est la langue en usage. Ouais. Donc oui, on, dans ces cas-là, on actualise les exemples.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Julie Neveu ?
Mais c'est quand vous parliez du fait que les Français aimaient bien leur dictionnaire, je voulais quand même dire que c'est vrai que c'était très spécifique et particulier à une forme d'exaltation de la langue française comme une langue qu'il faut respecter, une forme de sacralisation, et que ça c'était aussi cohérent avec le goût des Français pour la dictée, par exemple. Dictée, on vérifie si on ne s'est pas trompé. Donc il y a un côté un petit peu infantile comme ça, où on recherche une autorité, quoi. Alors que ça pourrait être plus ludique, comme Jean-Pierre.
Voilà,
aussi.
Voilà. Merci Jean-Pierre. Lila, sur WhatsApp, nous dit ceci, je suis relectrice-correctrice dans un journal de PQR, j'utilise donc de presse quotidienne régionale, j'utilise donc les dictionnaires, je devrais dire, tout le temps, c'est mon outil de travail, je dis souvent à ma fille d'aller voir dans le dico, lorsqu'elle a un doute sur l'orthographe, sur le sens, sur l'étymologie d'un terme, d'un mot, quand je reçois comme cadeau un dictionnaire, je saute de joie, certains de mes proches ne comprennent pas, le Larousse a des illustrations magnifiques, il est un peu conservateur. Nous dit Lila, notamment sur la féminisation des métiers. Robert est plus ouvert, dit-elle, et merci encore pour votre émission. Merci à vous, Lila. Et c'est vrai qu'il y avait eu un moment battle, si je puis dire en bon français, entre le Robert et vous, sur féminisation ou pas.
En fait, nous, comme c'est l'usage qui prime, on ne féminise que quand on a une attestation qu'une femme exerce bien un métier. Donc effectivement, on ne va pas féminiser. Au Québec, je crois qu'ils avaient voulu féminiser directement tous les métiers. Nous, on part vraiment du constat qu'un métier...
C'est intéressant, du coup, je suis en train d'essayer de me demander quels sont les métiers qui ne seraient jamais faits par une femme.
Il y en a eu, il y en a, toujours. Par exemple, il y a mineuse, il n'y a pas de mineuse. Il n'y a aucune mineuse parce que c'est une loi qui interdit aux femmes de descendre dans les mines. Et même quand il y avait des mines, il n'y avait pas de mineuse.
Entraîneur de foot, entraîneureux de foot, ou pas entraîneuse, j'imagine, parce que là aussi, entraîneureux ou pas,
oui, je pense entraîneureux.
Ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant dans le dossier de presse, et c'est pour ça que je parlais de choix ou d'idéologie. Le petit Larousse, là, d'aujourd'hui, parle des auteurs. Et donc c'est intéressant puisque par exemple
auteur-autrice, les deux figures,
les deux figures, mais dans le, je veux dire dans le communiqué de presse, dans le texte qui est rédigé par peut-être Bernard Cerchiglini, c'est la version auteur-eux qui est la plus discrète, et il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste que ça reflète l'usage, et c'est vrai qu'autrice est, on va dire, un tout petit peu plus, je pense, en train de prendre le pas
tout à fait
sur auteur.
Tout à fait.
Dans les nouveaux mots qui rentrent, qui m'ont fait rire, il y a aplaventrisme. Effectivement, on voit très bien ce que ça veut dire, aplaventrisme. Alors, si je l'ai utilisé une fois, je veux bien me transformer en pierre immédiatement. Attitude de soumission devant quelqu'un, un groupe, un pays. Il y a autophobie qui m'a beaucoup fait rire, parce que je croyais autophobie que ça voulait dire qu'on n'aimait pas la bagnole. Pas du tout, c'est qu'en fait, on a une peur irraisonnée d'être seul, ce qui n'a rien à voir. Et c'est toujours ça, moi, qui m'étonne dans le dictionnaire. Peut-être, par exemple, ce mot autophobie, vous l'aviez déjà entendu, Julie Neveu, ou pas ?
Pas du tout.
Et bien voilà. Et c'est ça qui me tue, moi. Vous dites que c'est dans l'usage, mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'être dans la vie quand même, j'ai jamais entendu de ma vie autophobie.
Oui, mais ça peut être très repris dans certains médias généralistes, et du coup, il faut le définir justement parce que vous l'avez peut-être peu entendu, mais justement, quand vous l'entendez, vous ne connaissez absolument pas son sens, et d'ailleurs, on peut se tromper, parce qu'effectivement, on a tendance à penser que ça a un rapport avec la voiture.
Oui, c'est vrai, Et je ne me vois pas utiliser, comment on l'utilise dans un exemple, par exemple, je me sens très autophobe.
Là, c'est le mot qui est rentré, donc je crains l'autophobie, il me faut absolument être entourée d'amis.
J'ai peur d'être seule, donc.
Oui.
Voilà, c'est plus simple. Angela est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Angela.
Alors voilà, moi je suis professeure d'espagnol, et du coup j'ai plein de dicos bilingues dans ma classe, et c'est vrai que c'est particulier le dictionnaire bilingue, et j'aime bien leur faire utiliser à mes élèves, ils les utilisent souvent, et souvent... Quand ils ont fini leur exercice, ils vont aller chercher d'autres mots, mais genre pipi, caca,
forcément.
Et j'adore cette idée-là, quoi, qu'ils puissent aller fouiller dans le dictionnaire pour aller chercher d'autres choses. Je leur dis que c'est ma Bible, c'est mon maître.
Écoutez, gardez vos Bibles précieusement près de vous, et tant mieux pour ceux qui vont chercher aussi pipi, caca, parce que c'est aussi la vie, Julie Neveu.
Non, c'est super intéressant, Angela, parce que figurez-vous que les premiers dictionnaires, les premiers usages du mot dictionnaire faisaient référence à dictionnaires bilingues, justement. Il y a le français latin d'Étienne, et puis il y a eu des français anglais. Et c'est plus tard, en fait, c'est seulement au XVIIe qu'on a eu des dictionnaires monolingues. Donc le premier usage, le premier emploi de dictionnaire, c'est vraiment les bilingues. Et oui, et pour la vertu transgressive et le plaisir un peu bizarre de voir des mots, des gros mots qui sont validés par l'objet livre, ça c'est fascinant. Ça, moi aussi, j'ai des souvenirs de quand j'étais petite d'aller chercher des mots interdits et de jubiler avec un peu perplexité du fait qu'ils soient là, écrits noir sur blanc, dans l'objet qui valide en fait, qui valide l'existence.
À chacun son usage, aussi ce que nous dit Isabelle sur WhatsApp, le dictionnaire permet d'insulter ses frères et sœurs ou de se faire insulter avec beaucoup d'élégance. Traiter quelqu'un par exemple de zoïle, vous connaissez ce mot vous ou pas, par exemple, c'est un jaloux envieux qui fait rien qu'à vous critiquer, et c'est délectable, nous dit Isabelle, et chez elle, en tout cas, nous dit-elle, c'est un sport familial que, d'aller chercher des choses de ce genre-là. Rama nous dit ceci, les dictionnaires sont punk, le fait de faire une recherche manuelle, avoir un rapport à l'objet, implique le corps et l'esprit de différentes fonctions cognitives, c'est une meilleure mémorisation aussi. Et bien sûr que le smartphone est pratique, mais on ne retient rien dans le smartphone. Ce que dit aussi Rama, et je trouve qu'elle a vraiment raison, nous envoyer un message sur WhatsApp, c'est que on l'a vu la semaine dernière avec la panne géante d'électricité en Espagne. Subitement, il y avait la radio, youpi. Alors la radio avec des piles ou même qu'on peut remonter, et puis le papier. Et à la fin, quand si on a un bon Larousse près de soi, il peut y avoir une bonne panne. On n'est pas démunis en fait, Karine Girac-Marinier.
Tout à fait.
Donc, couper le courant.
C'est complètement, complètement. Et surtout, non mais ce que dit Rama est très important, c'est vraiment cette histoire de mémorisation. Ça, c'est fondamental. On est actif dans le dictionnaire, on cherche, on retient sur Internet, on est complètement passif et donc on ne va pas retenir. On aura l'information qu'on voulait, qu'on cherchait, mais on ne la retiendra pas. Donc le dictionnaire fige dans l'esprit et l'orthographe des mots quand on les cherche, et derrière aussi leur sens et leur registre de langue. Ça permet aussi, on a beaucoup d'informations pour savoir dans quel cas on peut utiliser tel ou tel mot ou telle expression.
Mineuse, nous dit un auditeur sur WhatsApp, mineuse, c'est le nom donné à certains insectes parasites qui creusent des galeries. Donc effectivement, attention à la confusion avec mineuse. Mila nous dit ceci, il me semble que le thème du dictionnaire et de l'usage des mots renvoie aussi à un enjeu politique actuel qui est celui par exemple d'accepter ou pas l'écriture inclusive. L'Académie française a statué contre, donc le problème est hautement politique. Qu'est-ce qu'on en fait dans le dictionnaire de l'écriture inclusive, puisque de fait, vous... ce qui vous intéresse, c'est le mot, son existence et son orthographe. Donc, est-ce que ça vous concerne ou pas ?
Pas tellement, en fait. Et l'idée du dictionnaire, c'est quand même d'être un outil pour ceux qui veulent maîtriser la langue française. Donc, l'écriture inclusive, si jamais on réfléchissait à la faire advenir dans le dictionnaire, je pense qu'on complexifierait beaucoup les phrases et rendrait sans doute l'objet assez élitiste et assez difficile à mon avis à utiliser.
Voilà, on a un auditeur qui voudrait, si on lui demande un livre à choisir pour l'emmener sur une île déserte, il choisit son dictionnaire. Pourquoi pas, on en a une autre aussi qui déteste les dictionnaires et une autre qui dit, moi on m'en a fait un quand j'étais petite, sur le coup ça m'a vraiment fait de la peine mais maintenant je remercie les gens qui me l'ont offert. Allez, il nous reste une poignée de secondes. Vous avez un mot préféré vous, Julie Neveu, ou pas?
Non. Ah oui, j'aime tous les mots.
Eh ben voilà, bravo, vous non plus Karine Girac-Marinier?
Moi j'aime bien savoir, pardon.
Ah bah, écoutez,
ça tombe bien.
Comme ça, c'est fait. Merci mille fois à toutes les deux. Merci à tous pour vos nombreux appels. On s'est bien amusés. Et c'est tant mieux. Je ne vous dis pas au revoir ce soir avant d'avoir remercié l'équipe du 18-20 pour la jolie semaine passée ensemble une fois de plus. Il y a Pierre de Certaine, il y a Nathalie Poitvin, il y a Laura Dumez à la programmation, à la rédaction en chef cette semaine, Philippe Lefébure et Thibaut Cavaillès. Thomas Langlin est à la réalisation. Et c'est lui, Thomas, qui a trouvé Trap Lecteur pour Page Turner. Ce sont les Québécois qui l'ont inventé. Bravo à eux. Ryan Saibi est aussi à la doc, à la technique ce soir. Il y a Ludovic Asselot et Arnaud Caillet.